Chapitre 5. Le festin de Gulo Gulo. Gulo Gulo bavait d'envie devant les plats étalés devant lui. Tout ce festin à portée de main pour lui tout seul. Lorsqu'il avait osé déranger Honora après le banquet, pour lui avouer qu'il n'avait pas eu le temps de manger à cause d'une affaire urgente à régler, et lui avait demandé s'il n'avait pas mis de côté quelques restes, le cuisinier en chef du château avait tout de suite eu pitié de Gulo Gulo. Un garçon aussi bien bâti devait avoir un sacré appétit. « Viens avec moi !» avait répondu Honora, « avec tout ce qu'il reste du banquet, on a de quoi manger pendant toute la trêve. J'ai tout rangé dans la chambre froide du salon des sept cheminées. Tu pourras prendre tout ce que tu veux. » Tout ce qu'il voulait ? Un feu d'artifice de saveurs et d'épices avait explosé dans le cerveau de Gulo Gulo. La chambre froide du salon des sept cheminées, c'était une grotte au trésor. Gulo Gulo, encouragé par Honora, avait rempli trois pleines assiettes. Brochettes, côtelettes, tartelettes, viande hachée et purée.
Ça fait plaisir, un gars qui sait comme toi apprécier un bon repas. Tu devrais venir plus souvent suivre les cours de cuisine chez les singes. Qu'est-ce que tu fiches chez les soldats ?
« Ça, c'est une bonne idée, » pensa Gulo. « Devenir singe, option pâtissier. »
Mais il fallait déjà se nourrir. Gulo Gulo n'avait rien avalé depuis la folle nuit d'hier. Il hésita un peu, puis décida de commencer par le hachis parmentier de canard aux châtaignes. Il eut à peine le temps d'attraper sa fourchette que la porte du salon des sept cheminées s'ouvrit avec fracas. Jeanne d'Arc, le ministre des punitions en personne, venait d'entrer. Il était suivi de deux autres soldats, Django et Idriss. Gulo Gulo considérait Jeanne d'Arc comme un bon chef, exactement comme Akane ou Tipi, un chef autoritaire, mais qui savait contrôler ses nerfs et qui, surtout, ne faisait pas de favoritisme. Avec lui, tout était divisé à parts égales, les gâteaux comme les corvées. Django ou Idriss, par contre, que Gulo Gulo avait appris à connaître sur les tatamis, était moins intelligent qu'une portée de sanglier. Les deux soldats lui faisaient un peu penser aux ânes qu'on couvrait de sacs pour aller du château au tipi. Costauds, infatigables, obéissants, et ne se posant pas la moindre question sur ce qu'on leur demandait. On leur aurait ordonné de déboulonner chaque poutre du tipi avec un casse-noisette, ou de vider le fleuve avec une petite cuillère, ils l'auraient fait. Derrière les trois soldats, le conseiller Augénor s'avança. Gulo Gulo ne l'aperçut dans son fauteuil que lorsque les gardes se mirent au garde-à-vous. Gulo essayait de réfléchir le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il lui voulait ? Était-ce à propos de ce livre ? Pépin l'avait-il dénoncé ? Ouf, se rassura-t-il. Il ne craignait plus rien maintenant. Il s'en était débarrassé. Crisante se débrouillera avec eux. Et il avait trop faim. Il se servit une belle fourchette de hachis parmentier. Le beau de Django lui frappa la main si fort qu'il en lâcha le couvert et resta la bouche grande ouverte. Le hachis s'étala sur la table.
« Ça ne va pas !»
cria Gulo. Il hésita à se lever pour se défendre, mais les deux bouts des soldats frôlèrent sa tempe avant de s'arrêter à quelques centimètres de son cou. Jeanne d'Arc se tenait devant lui, impassible, comme s'il donnait des ordres invisibles. « On ne va pas perdre de temps, » fit Augénor de son habituelle voix douce. « Plus douce encore que d'habitude. » remarqua Gulo Gulo, ça ne présageait rien de bon. À moins que ce ne soit, pour une autre raison, ne pas réveiller le chien qui dormait sur ses genoux. « Tu as donné un livre à Crisante, » poursuivit le conseiller. « Un livre que tu as trouvé dans le camp de Mordelia. Pas la peine de nier, nous savons tout cela. » Gulo Gulo se dit qu'il avait eu une sacrée bonne idée en le remettant à Crisante.
« Je ne nie pas, tout est vrai. » « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, puisque vous savez que je l'ai donné à Crisante ?»
Elle ne l'a plus. Elle l'a jeté dans la Seine. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Gulo ne put s'empêcher d'afficher un grand sourire. Décidément, il avait eu raison de confier le livre à Crisante. Cette petite était plus maligne qu'une fouine. Augénor et les soldats n'étaient pas prêts de le récupérer, ce bouquin. « Ça te fait rire ?» Un nouveau coup de beau s'abattit sur sa main, celui d'Idriss cette fois. « Ça te fait rire ?» répéta Augénor.
« Non, non »
« Qu'est-ce qu'ils allaient faire de lui ?» s'inquiéta Gulo. « Le punir ? Le battre ?
L'enfermer ?
Tu aurais dû donner ce livre à un ministre, insista le conseiller en fauteuil. Comprends-tu? Il appartenait à Mordelia, notre pire ennemi. Gulot commença à avoir vraiment peur. Il avait toujours su que ceux du château étaient cinglés.
Je ne savais pas, protesta Gulot avec autant de sincérité qu'il le pouvait. Je vous jure, je ne sais pas lire. Et j'ai ouvert ce livre, mais je n'ai rien compris. C'est pour ça que je l'ai apporté à Chrysante.
Tu penses vraiment qu'elle a pu le jeter dans la Seine? Demanda Augénor. Gulot répondit trop vite. L'occasion était trop belle.
Sûr, elle est assez folle pour ça.
Il eut peur qu'un nouveau coup de beau ne s'abatte sur ses mains, mais les deux bâtons restèrent figés à quelques centimètres de son cou. Ok. On réglera ça plus tard. Et toi, à part des mots écrits sur les pages que tu ne savais pas lire, tu n'as rien remarqué sur ce livre? Un nom? Un titre? Cette fois, Gulot ne répondit pas assez vite.
Non?
Le beau de Django lui fracassa l'épaule.
Tu mens, s'énerva Augénor. Tu as envie de finir l'année enfermée à la conciergerie?
Gulot commençait à comprendre qu'il risquait gros.
Avec rien qu'un morceau de pain à manger chaque jour, ajouta le conseiller.
Il risquait vraiment très gros, pensa Gulot.
Non, j'ai... Monsieur le conseiller, je me souviens, il y avait des dessins sur la couverture.
Augénor sursauta. Sa réaction fut si brusque que Gulot crut qu'il allait réveiller le chiot.
Des dessins? Quelle sorte de dessins?
Gulot respirait un peu mieux. S'il leur fournissait une information utile, peut-être le laisserait-il tranquille.
Les mêmes que ceux gravés sur les murs dans le pavillon des savants. Tu vois ce que je veux dire, ces symboles bizarres, des hommes et femmes de profil?
Des hiéroglyphes? Gulot ouvrit de grands yeux. Il n'avait visiblement jamais entendu ce mot. Augénor eut un geste d'énervement. Sur ses genoux, Peggy dressa une oreille puis se rendormit.
Est-ce que tous ces dessins étaient alignés?
Oui.
Dans un cartouche?
Quoi?
Gulot n'avait pas davantage compris ce nouveau nom.
Un cadre, si tu préfères.
Il y avait combien de dessins?
6.
Tu saurais les reconnaître?
Gulot hésita. Il loucha sur les 3 assiettes pleines devant lui, puis visualisa dans sa tête les cellules de la conciergerie.
Est-ce que le conseiller et ses 3 gardes du corps bluffaient?
Jamais Alix et les autres ministres ne permettraient qu'il soit ainsi emprisonné, simplement parce qu'il avait ramassé un livre sans en parler. Sauf que les coups de beau étaient bien réels, eux. Et après tout, qu'est-ce qu'Augénor allait faire de ses dessins? Ce qui était important, c'est ce qui était écrit dans le cahier. Et puisqu'il ne savait pas lire, ça ne servirait à rien de le frapper pour le faire parler. Quelle chance, pensa-t-il, que depuis tout petit, il ait préféré chasser dans la forêt plutôt que de rester au tipi à déchiffrer des livres.
Oui, Augénor,
dit lentement Gulot pour bien montrer qu'il était prêt à collaborer.
Je peux les reconnaître.
Un grand sourire s'afficha sur le visage du conseiller.
Jean, va me chercher Valère.
Gulot dut attendre plus de 10 minutes avant que Valère n'arrive. 10 minutes de torture à rester silencieux, les yeux, le nez et la bouche à moins d'un mètre de ses 3 assiettes, mais séparés de son repas tant mérité par les beaux d'Idriss et de Django. Son ventre ne cessait de grogner. Chaque fois qu'il émettait un nouveau gargouillis, Idriss et Django le regardaient, puis l'un ou l'autre lâchait son beau et saisissait entre le pouce et l'index un épi de maïs grillé ou une part de tourte aux champignons qu'il croquait goulûment avant de se lécher les doigts.
Décidément, pensa Gulot, ceux du château étaient cinglés et méchants, raison de plus pour leur obéir sans jouer au plus malin.
Valère entra.
C'est lui, l'expert en hiéroglyphes? S'étonna Gulot. Le meilleur historien du château? Cet ado à la tête ronde et rouge couverte de boutons,
Il a une tête de champignon. Le champignon vénéneux.
L'arrivée d'un témoin, cependant, eut pour avantage de calmer le jeu sadique des deux soldats. Même Augénor avait abandonné son ton mielleux de chef qui pouvait ordonner à ses gardes de vous découper en viande hachée. Il paraissait désormais suspendu à ses lèvres.
« Bien !» commença le conseiller. « Tu as parlé de 6 symboles dessinés sur la couverture. On t'écoute. »
« Le premier, c'était une lune. »
Augénor sursauta. Puggy se réveilla d'un coup.
« Une lune ? Tu en es certain ?»«
Certain, » affirma Gulo. « De tous les dessins, c'était le plus facile à reconnaître. »
Le conseiller caressa le chiot pour le rassurer, mais sa main tremblait.
« D'accord, » bafouilla Augénor en faisant l'effort de dissimuler son trouble. « Une lune. Et ensuite, le deuxième dessin. »
« C'était un cercle, » certifia Gulo. « Un cercle avec un point au milieu. »
Augénor interrogea Valère du regard.
« C'est le symbole du soleil, » expliqua l'expert.
« Ok, et après ?»«
Il y avait une femme allongée, » continua Gulo. « Puis un homme debout, de profil aussi. »
« La femme allongée, » s'écria Augénor. « À quoi ressemblait-elle ? À une mère ?»
« Oui, » fit Gulo. « Enfin, à une femme, quoi. »
Le conseiller se tourna à nouveau vers l'expert boutonneux.
« Une mère, une lune. Ce livre parle forcément de Marie-Lune. »
Valère était devenu encore plus rouge, ce qui avait l'avantage de dissimuler les boutons écarlates sur son visage.
« Ce n'est pas si simple, Augénor. Les hiéroglyphes sont un système d'écriture très compliqué. »«
Alors vas-y, explique-moi. »
« Eh bien, les dessins, enfin les symboles, possèdent plusieurs sens à la fois. Le sens direct d'abord, c'est-à-dire le dessin. Par exemple, une poule va signifier une poule ou un bateau. »«
Et donc une lune signifie bien une lune, » ne put s'empêcher de glisser Augénor.
« Pas forcément, car les hiéroglyphes ont aussi un sens phonétique, c'est-à-dire le son du mot quand on le prononce. Comme un rébus, si tu veux. Par exemple, un dessin de bateau pourrait être utilisé par les mots « bas » et « tôt ». Tu comprends ?»
Augénor hocha la tête, concentré sur les explications.
« Et pour simplifier le tout, » enchaîna Valère, la signification des symboles dépend aussi de l'ordre dans lequel ils sont dessinés, à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale.
Gulo n'avait rien suivi, mais le conseiller continuait d'enregistrer toutes les informations, visiblement agacé par ces complications.
« Et sur la couverture de ce livre, s'inquiéta-t-il, à ton avis, dans quel ordre faut-il lire les dessins ?»
Valère en profita pour attraper un épi de maïs grillé dans l'assiette devant lui, le croqua, puis s'adressa à Gulo la bouche pleine.
« De quel côté regardaient la femme et l'homme ?»
Le ventre de Gulo gargouilla.
« Vers la gauche, je crois. » « Parfait. Alors, il faut lire les symboles dans le cartouche de droite à gauche. » Les personnages et les animaux des hiéroglyphes regardent toujours dans la direction du début de la lecture.
Jean d'Arc, Idriss et Django, accrochés à leur beau, paraissaient impressionnés par la science du savant.
D'accord, continua Augénor, pressé d'en finir. Et ensuite, Gulo, après la femme et l'homme, tu as parlé de 6 symboles.
Le cinquième était un œil, j'en suis certain. « Un œil comme celui-ci »
demanda Valère. Gulo s'aperçut seulement à ce moment-là que Valère avait griffonné à l'aide d'un feutre les symboles sur le dos de sa main. Comme par télépathie, il avait dessiné exactement l'œil qu'il avait vu.
« Oui, c'est celui-ci, mais
l'œil d'Horus !» coupa l'historien.
Il peut aussi bien représenter la protection que la chance, la jeunesse, la vie éternelle, la victoire du bien contre le mal. Et c'est un symbole magique très puissant. Il était utilisé en mathématiques pour...
Et le dernier symbole ? S'impatienta Augénor.
Gulo bafouilla.
C'est le plus compliqué. C'était une sorte de boîte ouverte, ouverte en bas.
Comme cela ? Valère avait à nouveau dessiné la forme exacte sur sa main. Dans son genre, pensa Gulot, ce type avec des boutons plein la figure était lui aussi une sorte de magicien.
Oui, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il signifie, ce symbole ? S'énerva Augénor.
Puggy était cette fois complètement réveillé et s'amusait à mordre la manche du conseiller qui tentait mollement de l'en empêcher.
Il pourrait représenter une maison, ou un bureau, ou une chapelle, mais isolé ainsi, son sens le plus courant est incontestablement.
Valère Gobin a radi pour ménager le suspense.
Une tombe.
Génor sursauta. Il repoussa Puggy si fort que le chiot poussa un petit aboiement aigu. Le conseiller le calma d'une caresse tout en criant presque.
« La lune, la femme, la tombe. Dans cet ordre, cela ne peut signifier qu'une chose. »«
Cela peut signifier beaucoup de choses, » tempéra Valère.
Augénor ne semblait pas l'avoir entendu.
« La tombe de Marie-Lune, là où repose notre mère à tous. Le cartouche de ce livre révèle comment découvrir la tombe de Marie-Lune, c'est évident. »«
C'est une hypothèse. » nuança Valère. Une hypothèse crédible, mais il existe une multitude de combinaisons possibles entre ces six symboles.
Chacun possède plusieurs sens, je te l'ai expliqué.
On la trouvera!
S'enthousiasma Augénor sans écouter les doutes de l'historien.
On la trouvera forcément. Nous n'avons jamais été aussi près.
Il avança d'un tour de roue vers la table. Gulot crut même qu'il allait lui écraser les pieds, mais le conseiller s'arrêta juste à temps. Il se pencha et attrapa une côtelette d'agneau qu'il lança à Puggy. Le chiot, qui avait déjà sauté de ses genoux, en frétilla de joie. Le ventre de Gulot protesta une dernière fois.
« Débarrassez-moi de tout ça !»
fit Augénor en s'adressant aux trois soldats. « Et toi ?» il s'adressait à présent à Gulot.
« Tu peux filer. Ne traîne pas, avant que je change d'avis pour ton séjour à la conciergerie. »
Gulot fixa avec consternation les trois assiettes qu'Idriss et Django vidaient déjà dans la poubelle, non sans s'être servi largement avant. Puis il disparut en courant.